Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Bienvenue dans la seconde partie de cette interview de Laurent Tsafou. Et alors le cheminement d'Elikia, donc ton héroïne, est parsemé d'embûches. Il y a la jeune fille qui devient femme, il y a l'apprentissage spirituel. C'est un parcours d'endurance aussi. Donc en fait, tu souhaitais que ce soit une sorte de parcours initiatique, mais dans lequel puissent se retrouver aussi des jeunes femmes d'aujourd'hui, même si évidemment on est dans un univers fictif.
Oui, complètement. Parce qu'il y a aussi, c'est toujours en fait... cette envie aussi de donner l'espace à un personnage comme Elikia aussi de se trouver. C'est-à-dire que ce soit dans justement sa recherche par rapport à elle-même, par rapport aussi à ses choix, par rapport au fait aussi de se retrouver seule dans un milieu qu'elle ne connaît pas, de chercher finalement à acquérir aussi une certaine assurance sur qu'est-ce qui fait que je me sens bien dans mes baskets et qui fait que je fais mes choix en connaissance de cause, etc.
Oui, parce qu'elle tâtonne, et puis tu lui mets beaucoup d'embûches à l'extérieur aussi, à l'intérieur.
C'est ça.
En elle, quoi.
Et ça, oui. C'était important pour moi, justement, de montrer une héroïne qui galère, en fait. C'est... parce que c'est quelque chose qui est finalement très proche de nous, aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve vraiment avec Elikia, essayer de comprendre ce qui se passe, à essayer de comprendre aussi un peu les enjeux. Quand Elikia se retrouve parfois dans une salle avec des personnes extrêmement puissantes et vulnérables, comment elle gère cette vulnérabilité-là, comment aussi elle l'assume en fait aussi, elle sait que c'est là et parfois en fait, même si c'est dur pour elle de gérer en fait ces émotions-là et ces étapes-là, elle sait aussi reconnaître quand en fait elle en a marre et qu'elle se sent un peu en marge et que finalement elle se sent aussi un peu dépassée par ce qui l'entoure, mais elle s'accroche. Et,
elle est très courageuse quand même.
C'est ça, elle s'accroche. Et,
elle lâche pas
et surtout elle grandit. Et c'est vrai que je pense que c'est important pour moi de montrer aussi une femme noire qui grandit dans un contexte en fait de survie. Dans un contexte de survie, alors ça existe déjà, hein, c'est pas, y a rien d'innovant, mais c'est vrai que pareil, dans certains retours que j'ai vus, etc., il y a beaucoup de gens qui ont juste vu une jeune femme qui grandit sans voir en fait que ses choix en fait répondaient en fait à un contexte de survie en fait, dans un monde où en fait voilà, il y a des monstres, enfin voilà, donc je pense que j'avais envie aussi de laisser place à un personnage comme elle, qui n'a pas toutes les réponses, qui va faire des choix parfois qui ne sont pas les meilleurs, et qui va aussi...
Oui, elle tâtonne,
ouais, voilà.
comme on tâtonne souvent dans la vie.
C'est ça, et, oui. Mais tu vois, c'est aussi intéressant parce que c'est aussi peut-être parce que c'est la première fois que je sors un roman, du moins un roman avec la visibilité que j'ai aujourd'hui, mais j'ai parfois l'impression que les gens sont plus soucieux de voir justement une histoire qui soit, des choix qui soient plus parfaits, plus raisonnés, etc., alors qu'en fait c'est ça la vie et le réalisme. Donc des fois j'ai l'impression en fait de payer un peu le fait d'avoir fait une héroïne trop réaliste parfois. On me reproche un peu pourquoi elle n'a pas fait plus ça que ci que ça, parce qu'en fait elle est humaine comme nous-mêmes, quoi.
Oui, mais puis l'histoire serait tout de suite finie, quoi.
Ouais, mais tu vois, c'est très intéressant
s'il n'y avait pas tout ça.
Ouais,
oui.
C'est intéressant à voir, je découvre
oui. Par les réactions de tes lectrices et lecteurs.
Ouais. Et en fait, et c'est ça, c'est que même dans les échanges que j'ai eus avec des personnes qui aimaient beaucoup Elikia, c'est que je leur demandais, mais en fait, vous, dans vos vies aussi, vous avez fait des choix toujours raisonnés, toujours. Et en fait, ça pique bouge toujours un petit peu, parce que les gens se réalisent que, bah oui, en fait, c'est ça la réalité, c'est ça le réel.
Ben oui. Mm. Et page 160, tu écris pour la plupart des gens, la grande nuit était une période étrange et sans limite. Si le soleil avait disparu, alors tout était possible. Ils s'accommodaient de cette vie obscure tant qu'ils restaient chez eux, entourés des leurs. C'était plus rassurant pour eux de s'accrocher à un semblant de routine que d'envisager un monde plus vaste que leur quartier. Sans s'en rendre compte, ma génération avait scellé cette résignation collective. Et je me suis demandé si là on était complètement dans la fiction ou si c'était inspiré un peu de tes observations du monde réel.
Ouais, un petit peu, un petit peu. Après, je suis pas une grande sage, hein, mais oui, je pense en fait, c'est surtout ce que je trouvais intéressant, c'est qu'on a quand même le parcours d'Elika qui est mis en miroir avec celui de sa mère et de sa grand-mère, et du coup qu'on a trois générations de femmes noires qui ont vu le soleil, ont vu sa disparition, et ont vu du coup la grande nuit, et donc cette notion d'héritage, quand Elika se retrouve du coup face à sa mère qui essaie de la convaincre que c'est important de faire revenir le soleil, Elika ne comprend pas vraiment l'intérêt en fait. Et si elle n'avait pas eu, par plusieurs facteurs et par la force des choses, sans spoiler, été forcée en gros de considérer en fait qu'il y a un besoin en fait de ramener le soleil, elle aurait partagé en fait cette résignation qui est bah, en fait je vois pas qu'est-ce que ça change à ma vie en fait. Je vois pas en fait pourquoi je devrais justement me penser comme un sujet faisant partie d'une cause plus grande, etc. Et c'est évidemment en miroir avec pas mal de mouvements collectifs aujourd'hui où en fait les gens souvent, je pense, attendent d'être touchés par quelque chose ou par d'être sensibilisé en fait pour sortir en fait d'un certain immobilisme, ce qui est très humain, hein, ce qui est très humain, mais qui du coup rend parfois plus confortable le fait de ne rien faire et d'être spectateur en fait, parce qu'effectivement une fois qu'on commence à se dire bah je veux me penser comme sujet politique en faisant telle ou telle action à mon échelle ou dans un groupe ou dans une association, etc., etc., on se confronte aussi à une réalité qui est beaucoup plus dure. Et ça aussi, Elika le découvre par son parcours. Elle comprend aussi que il y a des fois où elle se dit, mais j'essaie de penser à la vie que j'aurais eue si je n'avais pas pris connaissance, en fait, de l'invisible. Et ça aurait été beaucoup plus confortable.
Et oui, la facilité.
C'est ça.
Alors, page 196. Ta génération ne connaît que le tourisme virtuel. Il est devenu si difficile et cher de voyager qu'on vous a fait croire que vous pouviez visiter le monde depuis vos écrans, du moins si vous aviez l'argent pour. Mais au temps du tourisme physique, la Caraïbe était parmi les endroits les plus recherchés, notamment pour son climat ensoleillé. Quand la grande nuit s'est abattue sur le monde et que les enchères au lieu des obscurcies ont commencé, la Caraïbe était en tête de liste. L'oracle a veillé à en faire une sorte d'Atlantide, un endroit inatteignable pour le commun des mortels. Et un petit peu plus loin, tu écris, mais Yander, lui, se montrait particulièrement critique sur les visites virtuelles offertes en ligne à cause des dérives qu'elles avaient entraînées. Beaucoup d'humains s'étaient renfermés sur eux-mêmes, choisissant de se plonger dans ces vies virtuelles pour ne pas avoir à affronter la dureté de leur quotidien sous la grande nuit. Donc là aussi, ce n'est déjà plus de la science-fiction avec le métaverse que nous promet Mark Zuckerberg.
Exactement.
Qui est déjà prêt et qui est en train de se mettre en place partout. Donc c'est un peu ce qui nous attend. Donc tu as employé ce mot de métaverse au début de l'interview. Alors je te relaisse la parole pour développer sur cette partie.
Oui, ben en fait, c'est vrai que, alors, dans le contexte de nos jours brûlés, on est quand même face à une population qui, du jour au lendemain, en fait, perd tous ses codes. Et donc, même si l'histoire se passe 20 ans après l'apparition de la nuit, il faut comprendre qu'en fait, le monde extérieur, c'est-à-dire hors des villes, est redevenu sauvage, en fait, pour les humains. Donc, il y a vraiment en fait cette idée que l'humain doit trouver les ressources pour repartir à la découverte de ces espaces-là. Donc dans nos jours brûlés, il y a ce qu'on appelle les chasseurs, donc des personnes commanditées pour justement aller explorer justement les zones qui ont été colonisées par la nuit, par donc sa faune, sa flore toxique, etc. Enfin, il y a tout un monde qu'il faut redécouvrir et donc qui casse complètement toute connaissance pleine des humains par rapport en fait à la nature et au monde qu'ils connaissaient et en fait à leurs
Oui,
environs.
et le rapport de domination est
Et
inversé.
c'est ça complètement. Et en fait, la
Oui.
nature en fait, est redevenue sauvage à un point où en fait l'homme est de nouveau une proie. Donc en
Oui,
fait,
il est
il
menacé.
est
Oui,
menacé.
c'est angoissant même, c'est un peu anxiogène certains
Complètement.
passages. Tes descriptions sont tellement précises de cette des arbres, il ne faut pas toucher les troncs parce qu'ils sont tellement acides que voilà, enfin, y a tout un tas de choses qui nous montrent bien le contexte,
C'est
quoi.
ça. Et en fait, du coup, oui, il y avait un peu cette. Donc, d'un point de vue juste logique, face à un monde finalement que l'homme ne contrôle plus et ne connaît vraiment plus,
Oui.
on se retrouve en fait dans cette idée qu'il est plus facile finalement de rester dans le confort en fait et de ne pas prendre le risque d'être en danger vraiment
Oui.
en sortant du périmètre que l'on connaît. Et puis surtout, en fait, comme on s'évade, on est dans une ère hyper technologique aussi dans nos jours brûlés. Donc, le monde virtuel s'inscrit encore plus comme étant la seule échappatoire pour s'évader en fait du quotidien. Et en fait c'est ça, c'est que pour la génération d'Elika, c'est la seule notion de tourisme en fait qu'ils connaissent. Donc ça remplace même
Oui.
pas, pour eux c'est ça en fait faire du tourisme. Donc il y a vraiment là encore la notion de réel est différente entre ces différentes générations-là. Ouais, j'avais vraiment envie parce que c'est vrai que Elika est du côté de. Enfin, passe pas mal la partie une bonne part de ses aventures du côté de l'invisible, mais du côté du visible, c'est tout aussi dangereux finalement. En fait, on a une humanité qui est forcée d'être repliée sur elle-même et où les. Où le seul moyen de partir à l'aventure et d'aller un petit peu sillonner en fait les environs dans l'obscurité sans lumière, etc., ne peut être fait que si on a les moyens de le faire. Donc, encore une fois, on souligne un peu les écarts de mode
Oui.
de vie, quoi.
Donc en fait, j'avais une question aussi par rapport à quelque chose qui m'a touchée au fur et à mesure du livre, c'est qu'il y a donc ces descriptions très précises qui peuvent être anxiogènes et voilà sur cet univers dystopique, tout ça. Mais le revers de ça, c'est que tu nous fais bien comprendre, tu nous fais bien prendre conscience aussi des belles choses qui peuvent disparaître et de tout un tas de choses qui nous semblent normales d'avoir sur cette planète et qui ne sont plus. Tu décris les choses qui ne sont plus, de fleurs,
Là,
de
de couleurs,
vitamines, qui ne sont plus dans les plantes. Et ça, je trouve ça intéressant aussi de ne pas simplement être sur la partie description négative, mais de nous amener à prendre conscience des belles choses que l'on a encore, en fait.
C'est ça, parce qu'en fait, je pense aussi que je voulais questionner un peu la notion d'acquis. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est quand même assez présent en fait dans la fiction spéculative, mais en tout cas, cette idée que même pour Ilika ne sait pas ce que c'est forcément une pomme, en fait. Elle sait ce que c'est une pomme touchée par la nuit, donc avec un peu pourrie sur les côtés, avec voilà, des espèces de veines violettes. Hein. Voilà, on a toute une faune qui, justement, a incrusté et contaminé, du coup, des fruits et des légumes que l'on connaît aujourd'hui. Et du coup, voilà, souligner même l'ignorance délicate par rapport à certaines couleurs, parce qu'elle n'a connu que l'obscurité et du coup que des lumières éclairées par et des couleurs éclairées par des lumières artificielles. Donc en fait, il y a des teintes qu'elle ne connaît pas en fait et qui sont juste reconstituées ou présentes dans des archives en fait, mais qu'elle ne vit pas, qu'elle n'a pas dans son quotidien. Et ça aussi, c'était hyper intéressant de développer tout ça parce que pour moi, outre l'aspect cinématique qui est souvent présent dans mes histoires, il y avait aussi cette volonté de construire aussi un réalisme, que ce soit aussi une expérience en fait pour le lecteur. Et en fait, c'est ça, montrer qu'au-delà du danger, c'est ça aussi en fait une part de l'héritage et du savoir perdu d'Elika. C'est le fait en fait de finalement s'inscrire dans une reconquête du soleil ou du moins pour son retour en faisant un acte de foi par rapport à une époque qu'elle n'a jamais connue, en fait. Donc,
Oui.
en d'autres termes, donc, tout le monde lui dit que c'est super bien la vie où il y a la nuit et le soleil, mais en fait, elle ne sait pas en quoi. Donc, elle ne peut que espérer que, en tout cas, ce retour du soleil donne une vie, en tout cas, plus vivable que celle qu'elle connaît. Mais finalement, pour elle, c'est une forme d'idéal. Et encore une fois, bah, c'était une manière de faire aussi un parallèle avec les idéaux politiques où voilà, il y a toujours un peu cette tendance à parfois décourager, je pense, les plus optimistes en disant « mais c'est totalement idéaliste votre proposition », etc. Oui. Mais en fait...
L'utopie.
Voilà, l'utopie, complètement. Mais en fait, ça sert de direction. Et puis surtout, en fait, si on ne fait pas ça, bah, en fait, c'est le meilleur moyen de perdre ce qu'on a et de ne pas voir, en fait, ce que l'on possède déjà aujourd'hui, comme richesse, sur tous les plans. Donc c'est, ouais, c'est important, en tout cas, pour moi, de capter le regard du lecteur sur ces détails-là. Et j'ai été très influencée par le travail de Jenny Odell, qui donc, est une philosophe et artiste qui a écrit « How to do nothing », et en fait, où elle explique qu'aujourd'hui, dans une société... qui est soumise en fait à des questions de productivité, de collectivité, ou même le fait qu'on ait du temps libre doit être rentabilisé par un hobby ou un side project ou voilà, à nos réseaux sociaux, être présent, etc. Où finalement ne rien faire devient finalement un acte de résistance dans une société complètement complètement traversée par des injonctions de production. Où on est obligé de poster aussi des stories, etc., etc.
quand je vois ce qu'on impose aux jeunes artistes dans le domaine musical aujourd'hui, ouais. Avec cet esclavage des réseaux sociaux, il faut que sans arrêt, mais même si on brasse de l'air, mais il faut occuper l'espace.
C'est ça. Enfin, c'est...
Quelle est la valeur là-dedans ? Non, c'est juste occuper l'espace.
C'est ça, occuper l'espace. Et du coup, en fait, elle expliquait que du coup, ne rien faire, c'est aussi... alors, elle l'expérimente elle-même en se disant que, évidemment, il y a aussi des questions de classe sociale qui rendent ça moins possible, finalement, de ne rien faire et de prendre du temps pour soi, etc.
Oui,
mais
oui.
Du coup, quand elle se prête à l'exercice juste de se poser dans un parc près de l'université où elle travaille, elle se rend compte qu'elle remarque des choses qu'elle n'avait plus ni entendues ou plus remarquées depuis des années. C'est-à-dire, ça peut être le bruit des oiseaux, ça peut être des détails.
Comme on a eu pendant le confinement.
C'est ça, exactement. Et en fait, c'est ça que je trouvais intéressant, c'est l'importance du regard. C'est ça aussi, en fait, que j'ai essayé de montrer dans ces petits détails, finalement, qui amènent finalement le lecteur à se dire « Ah oui, moi, j'ai ça, en fait. Je suis pas en 2049, mais en fait, j'ai encore des oranges. » Et c'est vrai que je prends ça.
Apprécier.
Voilà, apprécier. Vraiment apprécier. Et ça, c'est possible que si on prend le temps, en fait, de regarder ces éléments-là, quoi.
Oui. Et dans cette quête très ambitieuse de ramener le jour sur cette terre, il y a un moteur très important qui leur permet de tenir malgré tout ce qui se présente pour les décourager. C'est l'espoir. Alors, quelques mots sur cet espoir auquel tu donnes un vrai rôle, un des rôles principaux quand même aussi dans cette histoire.
Ah, c'est très dur d'écrire sur l'espoir, surtout dans une époque comme celle qu'on traverse et encore plus en période d'élection présidentielle. Mais justement, je crois que c'est aussi un défi personnel que de questionner en fait aussi le scepticisme délicat face à un espoir qui n'est pas le sien au début, un espoir où en fait qu'elle va peut-être vouloir suivre par curiosité et pas forcément tant par conviction, et voir aussi sa conviction se construire en fait pour cet espoir-là, voir aussi que parfois aussi son l'image qu'elle a de l'espoir qu'elle a est peut-être différent de celui que les autres ont imaginé, confronter aussi la place qu'elle a face à cet espoir et donc face à ce collectif, des choix qu'elle va faire, notamment comme à la fin, c'est aussi savoir qu'est-ce qu'elle est capable d'apporter face à cet espoir, qu'est-ce qu'elle est capable d'accomplir en fait en vue de cet espoir et de sa réalisation. Donc c'était très... j'espère vraiment que les gens qui liront ou ont lu « Nos jours brûlés » ont senti ça, en fait. Le fait que c'est compliqué et dur, en fait, d'avoir de l'espoir. C'est un travail de longue haleine, ça prend du temps. Il y a des jours où on n'en a plus, mais en fait, on a besoin de ces jours de découragement pour y revenir, finalement, aussi. Donc, c'est une sorte de cycle. Et c'est vrai que j'avais envie de symboliser ça... à travers cette quête pour le retour du soleil et surtout à travers les yeux de Delicia qui finalement va être animée d'une certaine volonté, mais qui se construit, voilà, qui n'est pas, voilà, elle n'est pas élue, elle n'est
Oui,
pas.
puis il y a des forces contraires très
C'est ça,
fortes,
il y a des
quoi.
forces.
Mais on peut se retrouver aussi dans ce. Parce que là, ça passe par l'histoire des marques, de la marque et de cette force qui grandit en elle et qui est. Et en fait, on peut faire un parallèle avec nous, nos petits démons qui
Complètement.
peuvent, avec lesquels il faut batailler aussi,
Complètement. Et
qui.
qui, en fait, et qui nous pose aussi à nous demander, du coup, qu'est-ce qui relève vraiment de ma volonté et qu'est-ce qui relève, en fait, de quelque chose de très déterminé pour moi, qui fait que, en
Voilà.
fait, je vais rester sur mes positions. Complètement.
Oui.
Donc, oui, clairement, la marque de Lika est l'allégorie de pas mal de choses. Même si,
Ah oui.
même si je pense que les gens, facilement, alors, ils voient aussi le symbole de la différence, etc. Mais je pense que elle symbolise beaucoup de choses en même temps. Pas que la notion de différence. Je pense qu'il y a vraiment aussi bah voilà, comme tu le soulignes, la question de quel est un peu notre côté peu flatteur qui parfois nous barre la route et ferait en fait que les choses n'avancent pas et qu'on soit juste en fait qu'on ait envie de remettre nos œillères en fait un petit peu sur le monde
Oui,
qui nous entoure,
puis
quoi.
elle s'est engagée dans une noble mission qui concerne toute l'humanité. Et en fait, il y a cette force à l'intérieur d'elle qui, ça c'est quelque chose qu'on peut voir se reproduire, y compris pour des grands héros ou héroïnes, que ce soit pour les droits civiques ou dans les
C'est
luttes pour
ça.
l'environnement. Quelquefois, il y a des personnalités qui sont très bien parties pour gagner des grandes batailles et qui en fait sont rattrapées par
C'est ça.
des démons intérieurs qui font que ça
C'est
foire, quoi.
ça, c'est
C'est
ça.
donc
C'est ça. Et en fait, je pense aussi que c'est pour ça que c'était intéressant en tout cas pour moi de mettre Elika entourée autant de personnalités aussi qui sont un peu fantasmées, que ce soit le rôle du dernier éclaireur avec Yonder qui est finalement très humain et très imparfait sur
oui,
plein, plusieurs points, que ce
même
soit.
si au début il a pas l'air très
C'est
sympathique,
ça.
mais finalement, bon.
Que ce soit même le personnage de la prêtresse qui du coup à un moment incarne cette espèce d'espoir qui pourrait tout résoudre et en fait il y a le
Oui.
doute qui est semé au bout d'un moment sur bah, en fait est-ce que vraiment déjà elle est encore là et elle pourra nous aider est-ce que même elle va pas se retourner contre nous donc en fait c'est ça c'est montrer aussi que l'espoir c'est beaucoup d'incertitude et en fait c'est vraiment faire un acte de foi que de se dire bah en fait je choisis de m'engager et de continuer à me dire que c'est possible.
C'est un beau message. Il y a plein de beaux messages, hein, en fait.
On essaie.
Et alors, donc, tu viens de terminer l'écriture du tome 2 de Nos jours brûlés. Est-ce que ça se termine avec le deuxième ou il y en a
Ouais, ça
un
se termine avec
plus
le
ou...
deuxième. Ça se termine avec le
Ah,
deuxième.
bon,
Oui,
d'accord.
c'est vrai qu'il y a des personnes qui me disaient, mais trois, c'est bien aussi. Mais non, ce sera deux. Mais ce sera un gros tome.
Et c'est prévu, je crois, pour
C'est
septembre
ça. C'est
2022?
ça, tout à fait, pour septembre 2022.
D'accord. Donc c'est bon, c'est dans les clous, tu vas être prête.
Oula! En tout cas, j'ai rendu ma copie. Maintenant, j'attends le retour de mes éditeurs pour voir justement ce qui reste ou est-ce qui reste pas dedans. Mais voilà. Non, je suis curieuse du coup de voir comment va être reçu le 2, qui va être.
Mais t'as ton mot à dire quand même sur ce qui reste ou
Oui,
ce qui reste pas,
j'ai quand
oui.
même le mot à dire. Mais oui, c'est parfois vous faire un peu des bras de fer.
Oui, ça c'est normal, c'est le
C'est
jeu, c'est
ça, c'est
partout.
ça.
Oui. Et ce que je trouve étonnant chez toi, c'est que tu t'attaques courageusement à des sujets difficiles et assez délaissés, parce que dans ton premier roman, À main nue en 2017, la jeune Sibylle est atteinte d'aptophobie, cette peur de toucher et d'être touchée qui handicape le rapport aux autres. Et dans le bel album illustré pour enfants, La demeure du ciel, c'est sur le deuil, avec une petite fille qui perd sa grand-mère, et c'est un livre pour enfants. Qu'est-ce qui te fait t'aventurer dans ces territoires difficiles, Lorraine Safou?
C'est la question que mes proches me demandent.
Tu aimes sortir de ta zone de confort,
Ouais,
visiblement.
je pense que c'est ça, parce que pour la petite histoire, j'avais essayé d'écrire un autre livre à base de la demeure du ciel, quand justement j'étais en discussion avec Ambouraki sur un projet d'album, etc. Et j'ai essayé vraiment enfin, je leur ai soumis un livre qui je pense était mignon, mais en tout cas, mon éditrice a surtout m'a dit en fait que ça me ressemblait pas, ou du moins que c'était pas ma plume. Et je me suis sentie extrêmement démasquée quand elle m'a dit ça. Donc,
ah bon, parce que tu avais essayé de ruser.
Ouais, j'avais essayé de ruser, c'était la première fois. J'avais essayé de ruser, de rendre une copie. Un peu comme quand on rend une dissertation en retard et puis qu'on se dit, bon, ça va passer. Oui. Et en fait, non, elle me connaît très bien. Bon, je me dis aussi qu'après après deux albums jeunesse, elle a de quoi me connaître. Mais,
Oui, parce que c'était le chemin de Comme un million de papillons noirs et le chemin de Jada.
C'est ça, hein,
que
tout à fait.
Qui était déjà publié. Là, on est dans le même format.
C'est ça, exactement. Et du coup...
Avec une autre illustratrice, mais des magnifiques dessins.
Oui,
encore,
et hein. C'est son premier album jeunesse. Donc, ouais, l'artiste Oga Guillot, qui du coup a vraiment porté aussi hein, ce texte avec la poésie de ses images. Hein, parce que je pense aussi que c'est vraiment ce duo gagnant qui a permis aussi de rassurer un peu. Parce qu'effectivement, il y avait beaucoup, beaucoup... alors, pas de la part mais de mon éditrice, mais vraiment aussi des libraires qui avaient un peu peur en voyant le pitch, qui se sont dit « oulala ». Et qui, en fait, en le disant, ont dit « ah, enfin, ce sont... » étaient étonnés, en fait, de voir que il y avait beaucoup de joie, finalement, dans ce livre, en fait, et que c'était pas une histoire triste, en fait.
Mais comment vous en êtes arrivé, finalement,
à ce...
Entre le moment où tu étais démasqué avec ton...
Et ben, du coup, je me retrouve, du coup, ouais, démasqué, et en fait, je venais de perdre mon père quelques mois plus tôt, et c'est ça, c'est que je me disais, mais je ne peux quand même pas faire un livre sur ça, en fait, sur le deuil, etc. Et puis, un soir, ben, en fait, comme la plupart des histoires que j'ai écrites... l'histoire a débarqué sans que je le veuille, quoi. Donc, je me suis réveillée en pleine nuit, j'ai pris mon ordi, et là, j'ai écrit d'une traite « La demeure du ciel », presque à la virgule près, quoi. C'est un texte qui n'a pas vraiment bougé. Et vraiment, je pense aussi avec cette volonté de montrer qu'en fait, le deuil, au-delà de la représentation très austère qu'on en a, c'est pas ça, en fait, le deuil. c'est beaucoup de choses en même temps, c'est les souvenirs, c'est la famille, c'est la joie, c'est surtout la manière d'en parler qui crispe tout le monde. C'est ça, que ce soit les adultes et les enfants... Enfin, j'ai aussi pu voir en fait des enfants qui ont du coup vécu aussi le deuil à hauteur d'enfants. Les enfants ont besoin de ces conversations-là. Et c'est vrai que dans l'album jeunesse, bah, je continue à aimer fournir des histoires qui soient des supports de discussion. C'est pour ça que même à la fin, quand on a des recettes pour enfants, c'est aussi pour créer des moments.
La citronnade.
La citronnade et le petit gâteau aux poires. Bah, c'est aussi créer des moments, en fait, présents avec les parents, de donner justement une issue aussi à l'histoire qui ne relève pas, en fait, de quelque chose qui est fini, puisque c'est ça aussi le point central de l'histoire, c'est que dans le deuil, en fait, c'est pas juste quelqu'un qui n'est plus là, c'est vraiment en fait quelque chose qui continue avec ce qu'il nous a laissé, avec son héritage, avec sa transmission, avec la manière aussi qu'on fait de faire en sorte qu'il soit encore là avec nous, pour cette personne absente, etc. Donc il y avait vraiment, j'ai vu cette histoire et je me suis dit, mais en fait, bon, si j'écoute vraiment mes tripes, c'est ce livre, cette histoire-là qui doit sortir.
Et du coup, ton éditrice, quand elle a vu arriver le sujet, elle a pas regretté de t'avoir mis sur le premier.
Non, elle m'a dit, elle a été extrêmement touchée par le texte, assez bouleversée. Elle m'a dit, en fait, voilà, c'est ça la Lorraine Safou que je connais. Et du coup,
oui,
après,
qui va vraiment au fond des choses.
C'est ça,
va
au fond des choses. Et oui. Et puis ouais, je pense qu'elle a senti aussi. Enfin, j'essaie quand même de faire des histoires, en fait, avec une sincérité qui est proche du vécu et qui, en fait, permettent aussi aux gens d'investir eux-mêmes et de réfléchir et d'être aussi face à leur propre vécu. Donc, je pense qu'elle a reconnu ça et elle m'a prévenu que ça allait être compliqué, en fait, de défendre un livre comme celui-ci pour moi, hein, plus que pour elle-même, parce que Cambourakis a aussi pas mal de livres pour enfants qui s'attaquent à pas mal de thèmes aussi très engagés. Donc pour eux, c'était pas vraiment une prise de risque, c'est plus le fait que voilà, fallait que je me prépare à ce que ce soit un livre un peu qui rend un peu les gens frileux, quoi.
Et oui, parce que moi, je me demandais avant de le lire comment tu avais pu aborder ça, comment réussir un tel pari. Et en fait, j'ai beaucoup aimé la façon dont tu t'es emparée de ce sujet difficile, douloureux, pour l'alléger. Parce que justement, il y a quelque chose de léger aussi bien avec les dessins qu'avec le texte. C'est magnifique, c'est adorable, c'est doux, c'est sensible, c'est beau. Et mais je me souviens avoir lu sur ton compte Instagram, je crois aussi, que tu étais un peu inquiète avant la sortie du livre et tu te demandais dans quoi tu t'étais embarquée avec un tel sujet.
Ouais, parce qu'en fait, du coup, c'est vrai que quand on sort un livre pour enfants, ça veut dire aussi qu'on va rencontrer en fait des enfants et des familles autour de ce livre-là. Donc, les lectures en librairie, les ateliers en classe, aborder un thème comme ça, c'est très compliqué. Et en fait, bah, j'ai pour le coup, contrairement à mes autres albums jeunesse, je sais que c'est que lorsqu'il y a des occasions comme ça collectives d'en parler, je laisse beaucoup plus de place aux gens et aux enfants. Je laisse moins de, je guide moins hein, par des questions, des choses comme ça. Parce que chacun a sa sensibilité. Et en fait, autant un enfant peut me dire « Ah ben moi aussi, ma maman, ma mamie, elle est au ciel », de manière très légère, autant c'est des adultes parfois qui vont être très gênés parce que voilà, on n'a pas aussi cette éducation-là de parler de cette thématique-là en Occident et en France sur le fait de désamorcer aussi la gêne autour de ces questions-là. Et j'avais envie, c'est pour ça que j'avais envie aussi de faire une histoire légère et de le faire à travers le personnage de Sophia, un enfant qui pose les questions en fait, qui demande en fait, mais en gros, si sa grand-mère est au ciel, est-ce qu'elle peut pas en descendre en fait? Est-ce qu'il n'y a pas un ascenseur ou des escaliers, etc. Donc il y a toujours une appréhension quand je dis, quand je débute l'histoire de la demeure du ciel en faisant une lecture, etc. Et puis il y a toujours ce moment où les adultes sont. Respire, comme ça, genre, ah d'accord, ah ça va en fait, ah mais en fait tout se passe bien.
Les épaules
ouais,
retombent.
Ouais, les épaules retombent, c'est très intéressant d'assister à ça, et puis ils sont même finalement au bout d'un moment émerveillés, même par le fait de, d'être dans cet aspect un peu rêveur aussi, quoi. Et souvent, c'est les retours que j'ai des parents, c'est qu'ils sont contents d'avoir un livre pour aborder cette thématique-là compliquée, qu'ils n'auraient pas su aborder oui. eux-mêmes, et pour lesquels ils n'auraient pas forcément su avoir les mots en fait.
Et j'ai réécouté notre première interview, donc en préparant celle-ci, et tu me disais que ta mère donc, te parlait beaucoup de Toni Morrison, hein, tu l'as souvent raconté, mais quand on avait discuté, tu m'avais dit que c'était peut-être pour te dire aussi, c'est possible, en tant que femme noire, d'avoir une grande réussite en littérature. Et je me demandais ce qu'elle avait pensé de Nos jours brûlés et de ton parcours en littérature, ta maman, avec les albums jeunesse aussi que tu as fait et tout ce chemin engagé que tu poursuis. Et d'avoir publié Nos jours brûlés chez Albin Michel aussi. Oh, comment, ouais, aujourd'hui, est... comment...
Elle est extrêmement fière. Elle est extrêmement fière. Alors, c'est assez marrant parce que Nos jours brûlés, ça correspond vraiment au livre qu'elle n'aime pas, les trucs fantastiques et tout.
Ah oui.
Du coup, elle me dit, je vais essayer quand même, etc. Mais par contre, elle le vend auprès des gens. Alors qu'elle ne l'a pas lu. Bref.
Elle
l'a pas encore lu, elle l'a pas encore fini. Mais elle le vend auprès du coup.
Dis-lui de ma part qu'il faut qu'elle le lise.
Ouais, bien. je lui dirai. Mais en plus, elle voit l'engouement autour. Du coup, c'est pour ça qu'elle m'a dit, bon, peut-être que je lirai ton truc avec des elfes, alors qu'il n'y a pas d'elfes dedans. Donc je croise les doigts, mais en tout cas, non, elle est très fière, et puis je crois aussi qu'elle est à la fois spectatrice et un peu dépassée par le, toi, toutes les histoires que je fais, quoi. Elle dit, c'est vrai que je suis assez prolifique en termes de production littéraire, et du coup, elle regarde ça en se disant, mais j'espère que tu te reposes aussi.
Oui.
Donc non, elle est très fière, et je pense
oui.
Ouais, je pense pas qu'elle même si elle sait très bien, mais elle écoute mes interviews et elle est très
on la salue,
voilà,
alors.
On la salue. Elle est toujours très fière de de voir mon parcours, ma trajectoire autour de mon travail et aussi de ce que je défends. Mais je crois qu'elle réalise pas à quel point, en fait, elle a contribué à ce que j'en arrive là, en fait. Donc, c'est toujours... elle est très humble, ma mère, très humble. Donc ouais, je pense qu'elle a beaucoup... Elle a beaucoup de fierté, en tout cas.
Et oui, donc on va bientôt terminer. Donc là, quelques mots sur cette résidence d'écriture à New York. Qu'est-ce que tu vas y faire? Ça m'avait l'air bien intéressant aussi.
Oui, alors en fait, donc je suis invitée par le Centre culturel du lycée français de New York qui, donc cette année, invite différents artistes pour accompagner des classes dans la réalisation d'un projet. Et donc dans mon cas, c'est la réalisation d'un livre pour enfants qui s'appelle « Ellie, le masque brisé » et où en fait, on va s'inspirer des civilisations africaine précoloniale pour créer en fait un récit fantastique avec quatre classes de CM2 qui va lier à la fois donc illustration et donc texte, mais aussi qui va s'étendre sur un projet multimédia donc avec de la musique, une animation, etc. Donc c'est un sacré chantier. Du coup, j'ai l'occasion d'aller à New York à la rencontre aussi de ces élèves pendant quelques jours. Mais j'étais hyper contente parce que c'était vraiment bah, pile l'année où ils travaillent justement sur ces civilisations-là. Et donc l'occasion est à un moment où en fait je travaille sur ces thématiques-là à travers nos jours brûlés et tout ça, quoi. Donc une belle rencontre.
Et du coup, ce sont des petits Français qui sont d'une école française ou sont des petits Américains qui apprennent le français?
Il y a de tout, il y a les deux. Vraiment, il y a les deux. Après, c'est vrai qu'aussi, on a cette volonté peut-être aussi d'aller peut-être à la... Enfin, d'organiser aussi une rencontre avec... d'autres lycées en fait américains et particulièrement dans des quartiers comme le Bronx et Harlem ou des choses comme ça pour en fait prolonger l'expérience et aussi créer une rencontre, quoi. Donc ce serait cool.
Bon, et ça va s'étendre sur combien de temps alors cette aventure?
Alors ça commence du coup en février et du coup ça se terminera début avril.
Février-mars, deux mois?
Ouais, c'est ça, deux mois et demi.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres projets en cours dont on n'a pas parlé?
Oui, alors j'ai une bande dessinée qui s'appelle Amour croisé qui sortira au printemps. Donc je ne dis plus de date parce qu'avec tous les décalages qu'il y a eu avec, avec la pandémie, oui, c'est un peu compliqué. Mais du coup, ça sera mon premier roman graphique que je fais avec Camélia Blando, que les gens connaissent sous le nom de À part entière. Sur Instagram, qui était un peu l'endroit où je montrais un petit peu l'élaboration du projet. Du coup, je suis très très contente parce que je suis une fan de romans graphiques et que voilà, j'avais envie aussi de tester un nouveau format. Et puis voilà. Après, c'est pas mal chargé, hein. Donc
oui. Ok, Laura, un grand merci.
Merci beaucoup.
Je rappelle donc le titre « Nos jours brûlés », le roman de Laura Ntsafou chez Albin Michel. Je vais mettre dans le texte de description du podcast le lien pour que vous puissiez l'acquérir directement sur le site des librairies indépendantes. Et puis « La demeure du ciel » aux éditions Cambourakis avec Olga Guillot. Et puis après, toujours, hein, comme un million de papillons noirs, Le chemin de Jada aux éditions Cambourakis. Voilà. Et puis vous pouvez aller sur le blog de Laura aussi sur Mrs. Roots et sur son compte Instagram pour suivre toutes ses nombreuses activités. Voilà. Un grand merci,
merci
pour ce temps. Et toutes tes explications, c'est toujours un plaisir. Je te souhaite un bon cheminement avec le tome 2. J'ai hâte, quand je pense qu'il va falloir attendre septembre.
Ça va arriver vite, promis. En tout cas, merci de m'avoir accueilli encore.
Bonne continuation et j'espère peut-être à une prochaine fois. C'est ce que je t'avais dit la dernière fois. Donc je suis ravie, on s'est recroisés. Donc en présentiel, j'espère la prochaine fois.
Mais oui, avec plaisir.
C'était un plaisir.
Merci,
à bientôt.
À bientôt.
Au revoir. Vous pouvez retrouver Sous-Suite Planète sur Twitter, Facebook et Instagram. Sur Twitter et Facebook, je partage pas mal de contenu sur l'actualité des droits humains, de l'environnement, du climat. Et puis, très important, si cette interview vous a plu, n'oubliez pas de noter ce podcast sur votre application de podcast et de me laisser un petit commentaire. C'est très important pour le classement de Sous-Suite Planète. Enfin, autre information capitale, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Sous-Suite Planète est un média indépendant et autoproduit. J'ai besoin de votre soutien et je vous offre en plus pas mal de contenus exclusifs. Venez les découvrir. Je vous mets le lien vers Patreon dans le descriptif de ce podcast. À tout de suite.
Hey. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.